poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Poésie libre, vivante et mal élevée. Aujourd'hui, Brigitte Fontaine dans le texte avec Benoît Mouchard.
Il y a quelle qui écrit comme ça, cette très grande poésie?
C'est vraiment sa position à elle de dire « moi je suis ailleurs ». Aimez-moi comme ça, comme je suis, mais je peux pas être comme vous.
Suis-je rebelle? C'est évident. Je suis révoltée depuis toujours contre tout. Il n'y a pas d'âge pour être rebelle, qu'elle dit Brigitte.
Un petit effet, bande-annonce. Les voix d'Étienne Daho, Arthur H. et Brigitte Fontaine qui ouvrent votre documentaire Brigitte Fontaine, Réveiller les vivants, co-réalisé avec Yann Oran et Aurélien Guégan, est disponible sur la plateforme de France TV. Benoît Mouchard, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Révolté contre tout, c'est révolté contre quoi ?
D'abord contre les adultes et contre... les choses qu'on fait sans savoir pourquoi on les fait, parce qu'il faut les faire, je crois. Donc ça commence aussi par l'école. Et c'est d'autant plus frappant chez elle que ses parents sont tous les deux instituteurs.
Révoltée contre le contentement de la médiocrité, dit-elle aussi. Ça, c'était sur un plateau de télévision. Elle dit « Il est souhaitable que quand on écrit quelque chose, on soit le plus exact possible vis-à-vis de ce qu'on voit ou ce qu'on ressent. Alors peu importe si c'est noir ou rigolo et noir en même temps, moi j'ai une prédilection personnelle pour la rigolade avec quelque chose de carabiné. » La rigolade avec quelque chose de carabiné, ça vaut pour tout. Ça vaut pour les chansons, pour les pièces de théâtre, pour les contes, pour les romans, pour les poèmes en vers, pour les poèmes en prose, pour les aphorismes.
Oui, parce que c'est une œuvre assez joyeuse, en fait, et où le rire est particulièrement important. Ça passe par la satire, ça passe par l'ironie et aussi par le grotesque. Il y a un côté clown dans ce travail de Brigitte Fontaine depuis toujours aussi. Mais existentiel, c'est-à-dire que probablement le plus grand étonnement au-delà de la révolte contre l'ordre adulte, c'est l'étonnement du phénomène de la vie. Alors c'est un étonnement joyeux parfois et anxieux d'autres fois, puisqu'évidemment le phénomène de la vie est lié au phénomène de la mort. Et cette conscience-là, elle traverse vraiment tous ces textes avec sourire ou gravité, oui.
60 ans à peu près, hein, de Brigitte Fontaine en 54 minutes, je crois, quelque chose comme ça, le documentaire.
Oui, c'est court. Hein.
Il faut commencer par quoi ? Par se débarrasser des malentendus, c'est un peu ce que vous faites ?
Ah bah, dès le début du documentaire, on se débarrasse du personnage médiatique, oui, c'est sûr, qui a permis quand même aussi aujourd'hui à ce que beaucoup de gens aient découvert Brigitte Fontaine. Mais cette notoriété a été source de malentendus, puisqu'effectivement... si on reste à cette surface, on peut avoir l'impression d'une espèce de monstre de foire qui était un peu sorti sous les projecteurs des talk-shows. Mais en fait, quand on regarde ce qu'on a fait en travaillant sur ce documentaire avec mes camarades Aurélien Guégan et Yann Oran, quand on regarde les plateaux en question, on se rend compte que quand elle répond, elle est complètement dans la réponse. C'est simplement le contexte qui est complètement décalé. Mais elle est en général tout à fait juste dans ce qu'elle dit. Mais on l'écoute pas.
On l'écoute pas. Voilà.
Mais on l'écoute pas. Exactement.
Parce que dans le documentaire, Étienne Daho dit à un moment donné, le masque de clown a été dévastateur. Lui, ça a l'air de lui peser plus que ce que vous êtes en train de.
Je pense que c'était vrai il y a encore peut-être 10 ans. Mais Brigitte a arrêté d'aller à la télévision depuis assez longtemps maintenant. Et d'ailleurs, les talk-shows n'existent presque plus. Enfin. Toutes ces émissions où c'était l'animateur qui était la vraie vedette. Je vais pas citer de nom, mais je crois qu'on a tous en tête de quel plateau il s'agit. Et elle a arrêté. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'œuvre qui prend toute la place qu'elle doit prendre.
Pour évoquer aujourd'hui Brigitte Fontaine, dans le texte, en encore plus court, en une demi-heure, il faut bien commencer par quelque chose. Par exemple, par ce petit avertissement qu'elle glisse dans Mot pour mot, qui est une anthologie de, alors, principalement de ses chansons parues aux Belles Lettres il y a une dizaine d'années et préfacées par vos soins, Benoît Mouchard. Elle dit ceci, ce qui ne va pas forcément arranger nos affaires. L'auteur interdit formellement, en vertu des pouvoirs qui ne lui sont pas conférés, l'étude de ses textes dans les écoles, collèges, lycées ou université.
C'est trop tard. Il y a déjà des... Moi, je reçois des travaux d'étudiantes et d'étudiants qui m'envoient leur thèse, leur mémoire sur Brigitte. C'est trop tard. Ça lui appartient plus.
Alors, c'est peut-être trop tard, mais en même temps, ce petit avertissement, ça revient à ce que vous disiez en début de d'émission. On se souvient, par exemple, de la chanson dans laquelle elle écrit « Où vas-tu, petit garçon ? Je vais à l'école. Quand reviendras-tu ? Jamais. On me gavera, on m'endormira, on me hachera, on me mangera. Tralala, lala. » Ou encore cet entretien au micro de France Culture, on est en mars 76, alors que paraît son livre Chronique du bonheur.
C'est un autre genre de désir de la liberté, c'est-à-dire quand je commence, j'ai 4 ans et je fais ce que je veux par conséquent, comme les gens de 4 ans font ce qu'ils veulent, 10 000 fois plus que nous, parce qu'ils n'ont pas encore intérioriser, c'est comme ça qu'on dit, intérioriser la répression. Ils sont absolument terribles quand on les regarde.
Ils sont nature, vous voulez dire?
Non, je dis qu'ils sont terribles et qu'ils font résolument ce qu'ils veulent et que leur problème, c'est pas de se censurer eux-mêmes, mais c'est de faire ce qu'ils ont à faire. Et si on leur envoie la force armée, c'est une autre histoire, ça ne les concerne pas.
La liberté, force armée, c'est la fessée, alors, si vous voulez.
Oui.
C'est ça.
Ou le chantage aussi plus compliqué, sentimental, tout ça. Bon. Et quand j'écris, je souhaite être comme ça, où quelquefois j'arrive à me permettre de retrouver cet état où simplement je fais ce que j'ai à faire. Et où, c'est tout.
Comment est-ce qu'il faut entendre ce qu'elle dit? Alors, elle va y revenir souvent, hein, cette histoire de écrire dans l'état de ses 4 ans. Déjà, est-ce qu'il faut la croire quand elle dit ça, quand elle dit qu'elle cherche ça? Et est-ce qu'il faut parler d'une piste existentielle ou d'une certaine façon aussi très politique?
C'est très politique parce que quand on lui dit qu'elle est libre, elle répond que non, et que le seul endroit où elle est véritablement libre, c'est l'écriture. Donc c'est une affirmation de la création artistique et de l'écriture comme seul véritable lieu d'expression de la liberté, puisque effectivement, il n'y a personne qui peut normalement...
Ouais, elle dit qu'elle est entravée comme tout le monde.
Dans la vie, mais pas dans l'écriture. Dans l'écriture, il n'y a pas du tout de rempart ou de barrage à ce qui lui passe. En fait, je pense que une des qualités de Brigitte quand elle écrit, parce que moi je l'ai vue souvent écrire, c'est une intense concentration qui fait que plus rien n'existe que la feuille et la main qui tient le crayon et le cerveau, bien sûr. Et il n'y a plus que ça qui compte et il n'y a plus rien d'autre. C'est vraiment... le seul endroit où elle l'est, c'est l'écriture. Et je pense que quand elle dit ça, elle est tout à fait vraie et sincère. Enfin, ça s'entend d'ailleurs, je pense. Là, on entend quand même quelqu'un qui n'a pas l'air de tricher.
Et qui corrige, hein, comme toujours, à chercher le mot
exact. Le mot exact. Hein. Elle est amoureuse des mots aussi, ça c'est quelque chose de très important. Oui.
Alors, elle est née en 39, des parents instituteurs, très laïcs, quoique en Bretagne. L'enfance à Morlaix heureuse, l'adolescence à Brest malheureuse. Est-ce qu'en gros, c'est tout ce qu'il y a à savoir de cette enfance bretonne, hein?
Je ne peux pas dire plus que ce qu'elle veut dire, mais ce qu'on peut imaginer, c'est une très grande liberté dans la petite enfance, dans la nature des monts d'Arrée, de Plouillet, avant même d'être à Morlaix. Le père était absent, puisqu'il était prisonnier, c'était la guerre. Donc elle a grandi dans un gynécée, ce qu'elle raconte assez peu, mais que je dis aujourd'hui, entourée donc de sa mère, de sa grand-mère, des autres institutrices qui étaient là. Et puis, effectivement, à Morlaix, il y a encore la liberté. L'endroit où elle vit, l'école Gambetta, qui a beaucoup changé depuis qu'elle y a habité, était un endroit avec beaucoup de jardins vallonnés qu'elle évoque dans la chanson Belle Abandonnée notamment. Et ensuite Brest, bah Brest c'est le Brest d'après-guerre, donc c'est le Brest bombardé, bétonné, aussi probablement la découverte de la bourgeoisie et d'une mentalité qui lui était totalement étrangère.
Comment ça travaille son écriture, la Bretagne, hein, parce que c'est d'ailleurs
c'est un imaginaire encore très présent. Il y a des images et probablement un lien avec la nature tellurique qui vient de ces années-là, oui, et qui se manifeste par pointe, qui était plus présent probablement dans les disques et les livres des années 70, mais qui revient par moments. La chanson Belle Abandonnée que j'évoque, par exemple, c'est très clairement la Bretagne. Oui.
Alors, la différence de votre documentaire, Benoît Mouchard, l'anthologie de ces chansons, mot pour mot, elle l'avait organisée de façon absolument non chronologique.
Oui.
Qu'est-ce que ça dit de son rapport au temps, au sien, au nôtre, et finalement à l'écriture ?
Bah ça correspond à ce que je disais tout à l'heure sur l'instant de l'écriture qui efface tout autre instant. C'est-à-dire que le passé, elle le dit très régulièrement, dans de nombreux entretiens et même dans la vie, et encombrant, il est crasseux, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser pour être vraiment dans la sensation de la minute présente. Et donc ça a probablement aussi empêché sa reconnaissance jusqu'à encore il y a quelques temps, puisqu'elle refusait presque systématiquement de parler de son travail passé. Elle voulait parler de ce qu'elle était en train de faire. Et là, par exemple, je l'ai eu au téléphone.
Maintenant.
Oui, j'ai eu au téléphone encore tout à l'heure, mais même hier soir. Elle me lisait un texte qu'elle a écrit hier après-midi. Et pour elle, c'est plus important que le disque qu'elle vient de finir d'enregistrer, qui sortira à la rentrée, qui est déjà pour elle du passé. Donc elle est vraiment constamment, à presque 85 ans maintenant, dans le présent et le futur. Ouais.
Alors pardon, on va retourner un tout petit peu en arrière.
Brigitte, toujours au fond des cafés, comme au fond d'un bois, tu ne veux pas qu'on te voie. On va chanter crier sur les toits et tout le monde te voit.
Brigitte, extrait de l'album Brigitte Fontaine, c'était le quatrième je crois, paru en 72, hein, qui pour le coup là est un poème, un texte très très bref, et en vérité c'est par cette chanson-là que vous ouvrez votre documentaire, Benoît Mouchard. Qu'est-ce qu'elle pose d'entrée, cette chanson ?
Un paradoxe, et c'est une aussi des figures de style de l'écriture de Brigitte, c'est-à-dire l'envie de se cacher et puis de s'exhiber, qui est propre en fait à sa double vocation de personne qui écrit, qui donc pour écrire est seule et qui en même temps est sur scène et qui doit donc se montrer pour partager ses écrits, puisque c'est vraiment cette double vocation qu'elle a eue, qui est assez rare. C'est Rufus qui m'a dit un jour, finalement, si elle avait été comme Beckett, si elle avait juste écrit, peut-être qu'elle aurait eu une reconnaissance plus grande, mais elle voulait aussi être sur scène, donc elle a dû assumer les deux, et en France, on n'aime pas trop quand on fait plusieurs choses, en fait.
Parce qu'elle est comédienne.
Elle est comédienne et dramaturge, oui.
Alors, Brigitte Fontaine, c'est aussi un corps. C'est une difficulté à s'incarner, même si c'est une joie à se vêtir. Un look de libellule, dit-elle, un corps qui travaille les textes. Je pense par exemple à Maman, j'ai peur, la pièce de 69, écrite avec Higelin, justement, et Rufus, dont vous diffusez un extrait dans le documentaire, où il y a cette fameuse scène où enfin, elle découvre brusquement et violemment qu'elle est qu'elle s'incarne, hein, qu'elle a un corps avec des doigts, 10, des jambes,
des
cheveux. Cette angoisse-là, cette tension, sur laquelle vous revenez d'ailleurs souvent aussi, cette tension entre intérieur et extérieur, et cette angoisse de l'incarnation, ça s'écrit. Comment ça s'écrit, cette tension? Quelle place ça prend dans son écriture?
Bah, y a beaucoup de textes qui parlent de ça. Effectivement, « Maman, j'ai peur », y a toute une partie de « Maman, j'ai peur » qui évoque cette question-là. Et puis, « Genre humain », je me suis trouvé là, dans ce corps inconnu, pour Dieu sait quel gars-là, je ne l'ai jamais su. Soudain parachuté dans ce corps étranger, ange au supermarché, il m'a fallu danser la Java des terriens sans en connaître rien. Bah ça, c'est vraiment ce qu'elle ressent et qui est aussi évoqué dans une autre chanson qui s'appelle Folie, parce qu'en fait, si Brigitte Fontaine est folle, c'est de cette psychose-là, de se sentir par moments projeté dans son corps, ce qui est donc des états de crise psychique très 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 angoissants qu'elle connaît malheureusement parfois, qu'elle connaît moins depuis quelques années, mais qui quand ça la frappe sont vraiment des grandes angoisses existentielles. Ouais.
C'est un corps, et avec le corps, c'est aussi une voix. On entendait tout à l'heure sa voix de 72, de 76. On connaît, on a tous dans l'oreille sa voix d'aujourd'hui, sa voix d'il y a quelques années. Cette voix, elle a évolué. Elle est évidemment devenue plus grave, mais la diction aussi, elle s'est presque fixée, creusée dans sa manière, de Brigitte Fontaine. Comment est-ce qu'elle évolue, cette voix-là? Et est-ce qu'au fond, on pourrait faire un parallèle et suivre justement l'évolution de cette voix et de son écriture?
Je ne sais pas si on peut... En fait, moi, ce qui me frappe, c'est que quelle que soit la voix, elle exprime des choses très proches, en fait, quelles que soient les années. Après, la manière de prononcer, elle est liée à une volonté d'être comprise et d'accentuer les consonnes. Mais c'est pas vraiment un accent ni. En fait, elle parle comme ça tous les jours. Hein. C'est pas quand elle est devant un micro ou quand elle est sur scène qu'elle parle comme ça. C'est une volonté de se faire comprendre. Voilà. Et donc y a le tabac aussi qui a quand même. Je passe. Voiler un peu quand même le timbre de la voix, bien sûr.
Et pour autant, vous parlez, vous, par exemple, de alors, j'imagine avec beaucoup de guillemets, mais vous parlez de période cubiste, puis de période bleue. Puis donc, même si elle creuse un même sillon, même si on repère un lexique assez constant, en fait, depuis
le départ. Je crois que vous parlez, ouais, dans les textes, je dirais que il y a une période qui s'ouvre avec Comme à la radio, où elle rejoint la poésie contemporaine dans le vers libre et la prose poétique, où elle vraiment fait complètement exploser les formes. Ça dure quand même jusqu'à la fin des années 70. Elle y revient parfois, parce qu'il y a de temps en temps des textes, notamment dans le dernier Terre-Neuve, où il y a ces envolées en prose poétique ou en vers libre. Et puis, à partir des années de la fin des années 80 et tout les années 90-2000, un retour à des formes classiques. Elle peut même écrire des sonnets reliés par des refrains. Mais donc, il y a des formes classiques qui reviennent, et même musicalement, quelque chose de plus classique, oui.
Et lui, il est formidable.
Qui ça?
Toi.
Ah oui.
Elle dit qu'en fait, elle a rencontré Areski et ils ont bossé ensemble pendant 3 ans. Et puis un jour, hop, elle est tombée amoureuse.
Quand je vais chez eux, des fois, t'es vraiment perdu temporellement. C'est-à-dire que tu pourrais être avec des artistes en 1830, tu vois. Et ça serait exactement pareil. Et tu pourrais être aussi avec des gens, elle et lui, qui viennent d'un futur hyper sophistiqué. Tu pourrais être avec une espèce de jeune sorcière celte. Tu vois, dans une prairie sauvage, il y a 2500 ans.
Alors, qu'on entendait, c'était la voix de Rebecca Warrior et la voix qu'on aura reconnue d'Arthur Ashe, un extrait de votre documentaire, Benoît Mouchard. Brigitte Fontaine, c'est très largement d'abord le texte, ensuite la musique.
Le texte préexiste à la musique.
À la musique. Ouais. Alors, et c'est aussi évidemment une vie et une œuvre avec Areski, dont elle dit qu'il était à la hauteur, ou qu'il est à la hauteur de la bizarrerie de ses textes. Elle raconte aussi, plusieurs fois, elle a raconté comment elle s'est littéralement évanouie la première fois qu'elle a entendu
L'été,
un de ses textes mis en musique par lui. Est-ce que là, il y a eu, malgré tout, ou alors est-ce que ça laissait aussi intact son lexique, est-ce que l'arrivée d'Areski, comme le suggère par exemple Dao, je crois, est-ce que l'arrivée d'Areski dans son univers a fait quelque chose
oui,
à son écriture?
Oui, parce que justement, Areski a pris des textes en prose, comme la lettre à Monsieur le chef de gare de la Tour de Carole, et en a fait des chansons, mais au départ, c'était pas forcément des chansons. J'ai 26 ans, mais seulement 4 d'utile, etc. C'est un texte en prose également, et Areski en a fait une chanson. Mais à la base, ce n'est pas une chanson, c'est un texte qu'Areski prend. Donc cette influence-là, elle vient de là. Là, j'ai apporté quelques cahiers qui sont dans le film, qui sont filmés dans le film et dans le documentaire. Et Areski prend ces cahiers et puis ils parlent ensemble et ils décident que tel texte va devenir une chanson. Et puis il y a d'autres textes qui sont dans ces cahiers qui ne sont pas devenus des chansons, qui sont dans Mot pour mot ou nulle part.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Et aujourd'hui à la technique, Élise Leu, à la réalisation de June Lauper avec la collaboration de Virginie Leduo et avec nous, Benoît Mouchard, qui signe le documentaire Brigitte Fontaine, Réveiller les vivants. Et elle y dit, par exemple, d'ailleurs c'est écrit dans un des carnets que vous avez amené, la poésie, ça creuse. Oui.
Je suis un poète. Je rêve et je flash sur les lueurs du liquide vaisselle, sur la couleur des bonbons à la menthe, le long de l'Atlantique, sur le ciel plombé à travers les vitres des bars parisiens. Je suis un poète. Je tâte avec délicatesse les flaques de merde, plus douces que le miel. Je hume l'urine musquée des chats dans les taudis des quartiers chics, gothiques.
Un petit extrait de « Je suis un poète », 2009, texte qu'elle place presque comme en épigraphe, en ouverture de Mot pour mot, l'anthologie de ses chansons, dont on parle depuis tout à l'heure aussi, Benoît Mouchard, paru il y a une dizaine d'années à peu près. Ouvrir avec ça, c'est ouvrir avec quoi ?
Presque un manifeste, c'est-à-dire que la poésie pour Brigitte, c'est la transmutation par le verbe du réel pour créer des images et des sensations sonores et visuelles. L'écriture de Brigitte, c'est vraiment une écriture très imagée et qui suscite comme une espèce d'ouverture vers un ailleurs invisible.
Quand elle dit, et elle le dit souvent et de manière différente, et on le retrouve dans plusieurs de ses textes, quant à la poésie, elle n'a pas de contraire.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire ce que ça veut dire. Essayer de trouver effectivement à la poésie un contraire, oui. Mais c'est une blague aussi, hein. C'est de l'humour.
Alors elle peut dire, alors vous dites que son esprit est très très imprégné de culture classique, oui. Vous avez parlé des sonnets, elle peut dire du Racine, elle peut dire du Shakespeare de mémoire.
De Chic, ouais.
Elle cite volontiers les auteurs du 19e, Hugo, Baudelaire, Rimbaud, évidemment, depuis longtemps, depuis toujours, qu'elle a appris par cœur. Elle dit beaucoup de mal de Malarmé, de Gide, elle a beaucoup lu les Soufis aussi, pas de contemporains ou presque.
Si, Michaud, Desnos.
Un petit peu. Ouais. Vous dites la rencontre Duras-Fontaine, elle n'aura pas lieu forcément.
Oui, mais Brigitte Fontaine a lu Duras et elle a vu des films, mais la personnalité de Duras et celle de Brigitte étaient un peu incompatibles, je pense. Oui. Elles se sont croisées, mais pas connues.
Et il y a donc le vers, alors il y a le vers libre, et puis ce vers, la métrique, la contrainte vers lequel elle est revenue. Alors ça vient, ça va, ça repart, ça revient, mais c'est revenu beaucoup au gré de ses 60 ans d'écriture. C'est quoi, qu'est-ce que c'est pour elle que le recours à ce vers-là, c'est-à-dire à ce vers impeccable, à ce vers rimé, avec une petite préférence quand même pour le vers à six pieds.
C'est vrai. Mais l'octosyllabe revient assez souvent. Mais il y a même des chansons à cinq pieds, à même beaucoup moins parfois. Elle dit qu'elle trouve dans la contrainte du rythme et du vers une liberté paradoxale. C'est-à-dire que ce mouler presque dans cette référence et dans ces rythmes lui permet de trouver des choses encore plus librement que si elle n'avait pas ces contraintes là. Mais c'est vrai que je pense que parfois ça lui vient spontanément. La chanson Hollywood, par exemple.
Elle dit qu'elle a pas besoin de compter même.
Ah non, ça c'est sûr. Enfin, vous voyez les cahiers, il y a pas de rature par rapport au rythme. C'est par rapport à un mot qui est changé par rapport à un autre parfois, mais le rythme il est immédiatement impeccable. Ouais.
Alors justement, quand on regarde les carnets, qu'est-ce qu'on comprend de la façon dont elle travaille?
Eh bien, que c'est beaucoup d'intuition plus que d'idées qui la guide. Et je pense que c'est vraiment les images que suscitent les premiers mots qui la conduisent à découvrir le reste. Elle n'a pas de technique, c'est-à-dire que le titre ne préexiste pas forcément au texte, il peut arriver après. Mais ce qui est sûr, c'est que elle ne se met pas du tout de barrière dans ce qu'elle imagine. Il peut y avoir un mot très très sophistiqué et savant à côté d'un mot très grossier, quoi. Ça se télescope très souvent.
Alors on vous connaît, Benoît Mouchard, plutôt côté bulle, hein, côté bande dessinée, longtemps à la tête du Festival d'Angoulême. Aujourd'hui, directeur éditorial des éditions Casterman. Vous avez, on vous doit une somme sur Hergé, une autre sur Manchette. Et puis une monographie, plus qu'une biographie d'ailleurs, une monographie toujours recommencée, toujours sur l'établi de Brigitte Fontaine, des postfaces, des documentaires. Qu'est-ce qui a fait de vous un fonténien, je ne sais pas comment on va appeler ça, définitif?
J'étais encore étudiant en lettres quand j'ai entendu chez Gibert, pour citer cette librairie qui a aussi des disques, la première fois que j'ai entendu une chanson de Brigitte, et j'ai été stupéfait de ce que j'entendais, parce que ça me semblait...
C'était Hollywood ?
C'était Hollywood, oui, bizarrement, et ça me semblait complètement relié à ce que moi j'aimais et ce que je lisais en fait en tant qu'étudiant en lettres. Et du coup, j'ai pris ce fil et puis j'ai découvert quelqu'un qui parlait de choses qui faisaient écho chez moi, c'est-à-dire aussi le fait de pas forcément être comme tout le monde et de pas en être gêné pour autant, d'avoir cette liberté d'être différent des autres. Moi, ça se voit pas forcément tout de suite, mais c'est le cas pourtant aussi. Ça se voit pas comme Brigitte, on a tous nos façons d'être différents, mais voilà, cette espèce d'équilibre qu'elle semblait promettre.
Le film documentaire Brigitte Fontaine, Réveiller les vivants, est disponible jusque longtemps.
Oui,
il faut regarder maintenant. Sur France TV. Benoît Mouchard, merci infiniment d'être venu nous en parler. Quant aux écrits, textes, poèmes, nouvelles, contes, aphorismes et autres fatrasies de Brigitte Fontaine, les plus récents ont paru aux éditions Tripode. Il y en a quelques-uns qui sont tous évidemment disponibles et quelques-uns aux éditions Belles Lettres Archambault également. Poésie et ainsi de suite, c'est fini pour aujourd'hui, une émission en partenariat avec La Croix Lebdo que vous pouvez réécouter et partager sur l'appli Radio France. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, bon après-midi à toutes et à tous.